Est-ce que, en tant que chrétien, est-ce que pour vous, est-ce que ça a toujours de sens pour vous d'être chrétien? On parle des choses spirituelles, mais on vit dans un monde physique. On a ce qui nous concerne de tous les jours, mais on lit la Bible, ça parle des choses qui sont pas toujours physiques, c'est spirituel. Et des fois, pour moi, des fois, c'est difficile, c'est un défi de marier les deux choses ensemble, que ça a du sens dans ma vie. Ils sont pas accessibles aux cinq sens qu'on a, le toucher, le goût, tout ça. Et ça, pour nous, en tant qu'Occidentaux, c'est grave, n'est-ce pas? Parce qu'on aime bien tester les choses, on est on est des scientifiques. Peut-être pas tous, mais on aime bien le test scientifique pour tout, que on peut dire oui, ça existe. Mais c'est, le monde n'est pas fait que de ça. Et on peut pas tout tester, tout savoir de ce manière si ça existe. Il faut expérimenter des choses de notre manière, souvent. Même les philosophes ne sont pas capables de se mettre d'accord sur le sujet. Ils comprennent pas le côté spirituel dans l'homme. Et pour les gens qui croient dans l'évolution, c'est le plus grand défi, comment mettre le spirituel dans tout ça. Parce qu'il n'y a aucune raison dans l'évolution pour que l'homme soit un être spirituel, qu'on a ce côté en nous. Donc c'est le défi. Et parenthèse, si vous parlez avec quelqu'un qui a tendance de croire dans l'évolution, mais il aura le défi d'expliquer le côté spirituel et le côté intellect de l'homme qui n'existe pas dans le reste du le domaine de création. Mais heureusement pour nous, on a la Bible, on a la révélation de Dieu qui est là. Et c'est là où on trouve vraiment la manière de comprendre le côté spirituel de nos vies. Et ça nous montre que c'est pas juste une pensée, une superstition qui a été élaborée pendant des siècles, que commencé avec des hommes de caverne qui ont eu des réflexes un peu ésotériques et ils ont regardé les étoiles et tout ça. Et non, ça a pas évolué comme ça. La Bible nous montre comment ça s'est passé. Ça s'est passé. Et pour nous, dans la Bible, bien sûr, le maître de tout ça, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus, c'est lui qui nous montre vraiment comment marier le physique et le spirituel dans nos vies. Et quand on regarde sa vie et on découvre comment il a vécu sa vie, on voit comment on peut vivre en étant un homme spirituel et en étant un homme physique de tous les jours. Et nous serons un jour, les Écritures nous disent, comme Jésus. Nous ne serons pas Jésus, non, on ne serait pas Dieu, mais on sera comme Jésus. Et ça, je vous laisse digérer un petit peu aussi. C'est une grande pensée. Aujourd'hui, nous sommes une communauté de disciples. Et aujourd'hui, on est là tous ensemble. Et d'ailleurs, je pensais, quand on a commencé la louange, je pouvais compter combien on était en demain, je pense. Donc, c'est bien de retourner et voir tout le monde qui est là ce matin. C'est un encouragement de voir que vous êtes venus. Merci d'être là aujourd'hui. en tant que communauté, on fait un chemin ensemble. On grandit ensemble, on découvre ensemble qu'est-ce que ça veut dire d'être chrétien. Comment vivre notre foi en commun. Donc c'est bien d'être là aujourd'hui, ensemble. Je dois enlever ma veste parce que ça fait des bruits là que je parle. Il y a un philosophe que je pense que tout le monde qui a étudié en France connaît, qui a dit « Je pense, donc je suis ». Alors ma question de ce matin pour vous c'est « Penses-tu ? » Est-ce que vous êtes là ce matin ? C'est ce qui nous rend différents de toute la création, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est la pensée, le spirituel, c'est un peu tout la même chose. C'est ce qui nous différencie de toute la création. On est unique dans ça. Notre capacité de penser, de réfléchir, de résoudre des problèmes, nous sépare de tout le reste de la création. C'est une chose merveilleuse, que Dieu nous a donné, et sans laquelle on ne serions pas meilleurs que tous les autres animaux, les bêtes sauvages de la terre. Ça nous distingue de tout le reste. Il est important que nous fixions nos pensées correctement. Et on va, comme c'était déjà écrit dans le bulletin, on va regarder à Colossiens 3. Et je ne vais pas faire une verset par verset, un mot par mot, étude de ça. Mais on va voir quelques principes dans ce chapitre, de verset 1 à 17. Et je sais que je le prends par ce prix-là, mais Seb. Sébastien, est-ce que tu aimerais venir lire Colossiens 3, 1 à 17?
Donc Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Verset 4. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir votre nature terrestre. L'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créée. Il n'y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père.
Merci. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, c'est nous, ça parle à nous en tant que chrétiens. Paul est en train d'écrire aux Colossiens, c'était une lettre pour aider cette église à s'établir, de prendre ses bases. Comme Pierre est en train de prêcher, il a prêché de Timothée et de Tite, c'est le même principe ici. Il veut rendre cette église solide et ferme et de l'aider de progresser, d'avancer. Et souvenez-vous, quand vous lisez, il écrit aux chrétiens. Il n'est pas en train d'écrire aux non-chrétiens, aux non-croyants. Là, donc, tout ce que Seb a lu là, les choses qu'il a mentionnées, c'est des choses que les chrétiens, ils luttaient avec ces choses en eux, ces caractéristiques, ces habitudes. Ils avaient de peine avec ça. Donc, c'était pas des gens parfaits. Nous non plus des gens parfaits. On a tous des luttes et des défis en nous. Mais ça dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Ça va le de la Bible Colombe. Et moi, j'ai utilisé une autre version, la seconde 21. Donc, des fois, peut-être, je vais dire, utiliser des versets qui se différencient un petit peu. Mais c'est quand même la révélation de Dieu qui est correcte. Ne soyez pas captivés par les affaires de ce monde. Là où ton trésor, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est ce que Jésus a dit. Paul vient d'écrire dans chapitre 2, plus tôt, « Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant de elles par la croix. » Ça, c'était chapitre 2, 12 à 14, 15. 12 à 15. « Nous sommes ressuscités en lui et avec lui. » Ça, c'est pas facile à intégrer, n'est-ce pas? C'est une chose spirituelle. C'est une chose. Moi, j'étais jamais mort, donc je ne peux pas être ressuscité. Donc, comment comprendre ça? C'est pas facile. Mais, et donc, spirituellement, physiquement, rien n'a changé, physiquement. Des fois, quand quelqu'un vient à Christ, il y a des changements physiques qui se passent, c'est vrai, mais souvent, quand on vient à Christ, il n'y a rien qui change physiquement dans ma vie. Ce jour-là, on expérimente une transformation intérieure, spirituelle, et tout a changé à ce niveau-là. On n'est plus le même intérieurement lorsqu'on vient à Christ. On n'est plus le même avec Christ dans notre vie. Et Paul, il veut que nous arrêtons de vivre de même manière lorsqu'on vient à Christ. Là, il parle assez. C'est pas trop fort la manière qu'il parle. C'est une instruction, c'est une lettre qu'il écrit. Donc, il va doucement. Mais quand même, il veut un changement dans la vie des Colossiens. Et Dieu veut un changement dans nos vies. En fait, c'est pas Paul, c'est Dieu qui transmet par Paul ses idées. Ce changement, qu'est-ce que c'est? Comment comprendre ce changement? Et je le vois comme si je naviguais un bateau, par exemple vers Buenos Aires, en Argentine, et au milieu de le voyage, je décide de changer le cap vers New York, au plein milieu de l'océan Atlantique. Je décide, je ne vais pas aller au sud, je vais aller à New York. C'est un changement radical, n'est-ce pas, dans la direction que je prends. C'est plus le même. Ça veut dire qu'il faut que je regarde mes vivres, la nourriture dans la cabine, tout ce que j'ai là. Est-ce que j'ai assez? Est-ce qu'il faut que je trouve une porte d'escale pour remplir la cuisine? Est-ce que j'ai les bonnes cartes? En tant que capitaine de bateau, tout change. Je dois vérifier la météo pour le voyage vers New York. Je dois tout changer dans la manière que je dirige, que je navigue mon bateau. Et de même, lorsque je prends la décision de suivre Christ dans ma vie, et qu'est-ce que c'est ça? C'est d'admettre que je suis un pécheur, de le confesser devant lui. Et puis, ensuite, je reçois le pardon qu'il m'offre. Ça, c'est de décider de follow Christ. C'est pas juste un jour que je décide de lire ce qu'il a enseigné et faire ce qu'il a enseigné. C'est plus que ça. C'est de d'abord admettre que je suis pécheur et j'ai besoin de lui, j'ai besoin de son pardon. Je change le cap de 190 degrés. C'est un changement de cap radical dans la vie de quelqu'un qui décide de suivre Christ. On ne peut plus vivre le même. On ne peut pas continuer dans la même manière avec notre vie si on dit oui à Jésus dans notre vie. Ça doit changer. Sinon, c'est pas une vraie décision de suivre Christ dans notre vie. Donc, de même que de naviguer, le navigateur doit effectuer un changement radical. Je dois prendre des mesures radicales aussi. Mon cœur se fixe sur des nouvelles choses. Mon langage, ma façon de vivre, ma façon de faire des affaires dans le monde, mes ambitions professionnelles, la façon que je gère ma santé, mes amitiés, mes passe-temps, tout doit changer, Paul dit ici. Ça ne peut pas rester le même. Et Pierre a cité la semaine dernière, il a parlé de Romains 1, 28 à 32, où Paul parle des manières de vivre du monde. Et puis en Galates, un autre point, dans une autre lettre, en Galates 5, il fait la même chose. C'est des listes des mauvaises habitudes du monde qui est là. Et là, en Colossiens 3, on a aussi une liste. En verset 5, il dit « Fais donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ces choses, ces choses que trop souvent restent dans nos vies. Et moi, je suis le premier d'admettre que j'ai pas toujours vaincu ces choses dans ma vie. Et j'ai pas toujours la victoire sur ces choses comme la colère et les choses comme ça. Et il faut juste parler avec mes enfants de savoir que je peux bien me fâcher avec eux et des fois injustement. Des fois c'est juste, des fois c'est pas juste. Je les vois sourire. Ils savent et moi je sais. Mais merci pour la croix, parce que la croix est là. Et même lorsque je chute et je ne me comporte pas de manière juste, le pardon de Dieu est là pour moi. Mais ces choses, Paul dit, il dit en verset 5 au début, « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Faites donc mourir. » Ce qui est mort ne revient pas normalement à la vie, sauf si Dieu le ramène à la vie, je vais dire. Mais non, ce qui est mort reste mort et il ne faut pas, nous, il ne faut pas le ressusciter. Il ne faut pas essayer d'être Dieu et le faire ressusciter. Laisse-la mourir et être enterrée. Ces choses doivent être passé de nos vies. Donc, où avez-vous vos pensées? Tu penses, donc tu es. Vous pensez, vous êtes. Où sont vos pensées? Lorsque Jésus enseignait dans le désert, il a dit ceci. Et c'est en Matthieu 6, 19, 21 et 24. Je dis ça pour Ali qui traduit. Matthieu 6, 19, 21 et 24. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mites et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mites et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. 24. Personne ne peut servir deux maîtres, car où il détestera la première et aimera la seconde, où il s'attachera aux premières et méprisera la seconde. Mais vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Bon, là, le terme, c'est argent. Mais ça voulait, littéralement, ça voulait dire ce qui est plaqué sur l'idole, l'argent sur l'idole. Tu ne pouvais pas servir l'idole. Et le bon vieux mot de Louis II et de King James, c'était le mammon. Mammon, en anglais. L'esprit de mammon. C'était comme un dieu. Donc, où est-ce qu'ils sont vos pensées? Notre cœur se fixe très vite sur les choses très simples. La nourriture, l'habillement, notre abri, un époux, toutes ces choses. Et ils sont importants et essentiels. Mais Paul nous dit ici, recherchez les choses d'en haut. Il dit, ne cherchez pas ces choses, recherchez les choses d'en haut. Et Jésus nous promet de prendre soin de nos besoins quotidiens si nous fixons notre regard sur Dieu. Si nous fixons nos cœurs seulement sur les choses physiques, sur les trésors physiques, ils disparaîtront. Ils seront volés. Ils vont putréfier ou ils vont être partis. Un jour, tout ça va être détruit. Mais si nous fixons nos cœurs et accumule notre trésor en Dieu, nous ne serons pas dessous par les défauts, les erreurs, les peines humaines et les détériorations physiques de nos biens et nos bien-aimés. Fixons nos cœurs sur Dieu et les choses de Dieu. Recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Nous sommes donc très malins en tant qu'humains, et surtout sur ce sujet, nous aimons nous justifier sur notre manière de vivre. Donc, quelques années plus tard, dans le ministère de Jésus, il y a quelqu'un très malin qui est venu lui parler. Et l'auteur, l'écrivain Luc, il appelle un chef. C'était quelqu'un important dans la communauté. C'est Luc 18, versets 18 à 23. Luc 18, 18 à 23. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas faux témoignage. Honore ton père et ta mère. J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, dit-il. Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, l'homme devint tout triste, car il était très riche. Ici, nous avons un homme important qui essaie de piéger Jésus. C'est le terme « interrogea ». Ça veut dire « tendez un piège pour Jésus ». Il pensait malin dans sa manière de parler avec Jésus. C'est un homme qui vivait correctement. Il n'avait rien à se reprocher. Il n'était pas comme la foule populaire qui suivait Jésus. Les collecteurs des impôts et tous les autres pécheurs. Mais cet homme de bonne apparence n'a pas saisi avec qui qu'il avait affaire. Jésus, la parole de Dieu, que je vous rappelle, est vivant et efficace, plus tranchant que toute épée à deux tranchants. C'est la parole de Dieu physique venue dans le monde. Donc ce verset en hébreu s'applique, je crois, aussi à Jésus même. Et là, Jésus, il voit cet homme qui vient, qui essaie de lui tendre ce piège, de se justifier devant Jésus, que lui, il était bien. Et combien de personnes dans le monde autour de nous sont comme lui, qui se trouvent bien, qui se trouvent bien portants, qui vivent des bonnes vies. Mais Jésus dit à cet homme, il le regarde, il voit son cœur. Jésus a vu son cœur, il connaissait ce qui était dans son cœur. Et dans son cœur, c'était un homme qui aimait la richesse. On ne sait pas comment il est devenu riche, mais il était riche. Et Jésus savait que cette richesse le séparait de Dieu. Et c'était cette richesse-là, cette manière d'accumuler la richesse et de garder la richesse, c'est ça ce qui le séparait de Dieu dans cet homme. Et dans nos vies, Jésus connaît ce qui nous sépare de lui aussi. Ce qui nous empêche de grandir avec lui, ce qui nous empêche de vraiment expérimenter la vie que Jésus veut pour nous. Il connaît dans nos cœurs, il connaît dans mon cœur ce qui m'empêche d'aller plus loin avec lui. Et à cet homme, Jésus a dit, c'est tes richesses, et pour ça, il faut que tu enlèves tout. Pour lui, c'était une richesse, pour moi, c'est autre chose. Pour chacun de nous ici, c'est quelque chose que Jésus peut mettre le doigt dessus et dire, il faut que ça arrête là, il faut que ça soit enlevé. Et c'est à nous de prendre le pas. C'est à nous de dire, d'accord, Jésus, je l'abandonne. Jésus dit, à travers de Paul, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Recherchez les choses d'en haut, pas les choses terrestres. Un peu plus tard, dans Colossiens 3, en verset 5, il dit, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Là, jusque-là, dans ce premier paragraphe, Paul est assez gentil. Mais là, il dit, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Jésus a dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il faut que ça meure en nous. Il faut que toutes ces choses terrestres, il faut que ça meure pour qu'il y ait autre chose, beaucoup plus beau, beaucoup plus belle, beaucoup mieux, puisse ressortir dans nos vies. Ça doit mourir. Et c'est à nous. C'est vrai qu'on est sauvé par la grâce, par la foi et par la grâce. C'est vrai ça. Mais il y a notre part aussi. Une fois sauvé, ça ne veut pas dire que c'est tout fini. Il faut continuer, il faut mettre à mort ces choses terrestres dans nos vies. Et des fois, il faut être dur avec soi-même. Ici, Dieu, de nouveau à travers de Paul, est tranchant. Il a dit, faites donc mourir tout ce, en vous ce qui te reste. Le Saint-Esprit a révélé à travers de Paul que un niveau spirituel a déjà eu lieu. Et ça, c'est tout à l'heure dans les Écritures. Donc, maintenant, aujourd'hui, il faut le faire dans nos vies. Il faut le faire. Mais ça ne veut pas dire que dans les lieux célestes, ce n'est pas déjà accompli. Et ça, c'est un peu complexe, comment il peut avoir les deux choses. Mais par la croix, il y a beaucoup de choses qui se sont arrivées déjà. Au moment de notre entrée dans le royaume de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, quand je prends conscience de mes péchés, que je les admets devant Dieu et que je demande le pardon de mes péchés, quand on fait ça, il y a quelque chose qui se passe spirituellement dans les lieux célestes. Oui, on dit, la Bible le dit aussi, les anges célèbrent le fait, oui. Et c'est la fête quand chaque pécheur arrive auprès du Père. Mais il y a autre chose qui se passe. Cette vieille nature spirituelle qui était hostile à Dieu est mort. Il est fini. Donc spirituellement, tout ça est mort. J'ai déjà lu en Colossiens 2, 14, il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous a condamnés par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a donné publiquement en spectacle triomphant d'elles sur la croix. Donc, cette nature en nous, cette nature qui est contre Dieu, qui veut vivre pour soi-même, qui veut faire ce qu'elle veut, quand elle veut, et autant qu'elle veut. Cette nature, lorsqu'on prend ce pas avec Christ, il est cloué là sur la croix qu'on a célébré tout à l'heure. C'est bizarre quand on célèbre la croix. La croix qui est un outil de torture, qui était une des manières les plus terribles de toute l'histoire de punir quelqu'un. La souffrance terrible. Mais aujourd'hui, on célèbre ce croix parce que c'est là où nous sommes libérés de cette nature qui nous sépare de Dieu. À un autre moment, Dieu nous dit en Hébreux 9, chapitre 9, c'est versets 11 à 14, Hébreux 9, 11 à 14. Et ça explique ça plus en détail. C'est pour ça que je le lis. Parce que c'est important de comprendre ce qui s'est passé spirituellement. Parce qu'une fois qu'on comprend ce qui s'est passé spirituellement, je pense que ça nous donne des ailes de citer un texte populaire d'aujourd'hui. Ça nous donne des vraies ailes pour aller en avant et de mettre à mort les choses terrestres. Mais en Hébreux 9, 11 à 14, ça dit, « Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par l'homme, par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Mais croyez-vous bien que ça s'est vraiment passé? Ce n'est pas juste l'écriture, ça s'est passé. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de bouc et de jeune taureau comme était prescrit par la loi mosaïque, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que le cendre d'une vache, dont on asperge ceux qui sont souillés, les rend saints en leur procurant une pureté rituelle. Donc ça, c'était la manière dans la loi mosaïque d'amener la purification lorsque quelqu'un a péché. Si tel est le cas, si déjà ça donnait une purification, bien que temporaire, parce que la prochaine fois, il fallait retourner de nouveau pour donner un sacrifice. Là, si tel est le cas, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. On ne réalise pas. On ne pratiquait pas les rituels mosaïques avant qu'on est venu à Christ. Donc, on ne réalise pas le fardeau de ça sur l'homme. De chaque fois qu'on a péché, pour être pur devant Dieu, il fallait offrir un sacrifice de nouveau. Et là, Dieu nous dit, à cause du Christ, qui est mort sur la croix, mais au moment de sa mort, il est entré dans le lieu céleste, spirituellement, mais vraiment, il est entré là, ça s'est vraiment passé, et là, c'est des choses spirituelles qu'on ne saisit pas vraiment bien, parce que c'est pas physique aujourd'hui, mais ça s'est vraiment passé, et c'est là où nos actes étaient cloués. Et c'est par le sang de Christ qu'il a offert lui-même pour nous que nous avons reçu le pardon. Et mes amis, c'est merveilleux ça. On n'est plus on n'est plus lié par cette manière donnée par Dieu pour le peuple juif de recevoir le pardon du péché. C'est Dieu qui a donné, mais c'était temporaire, c'était en prévision de ces faits de la mort de Christ. On n'est plus sous cette loi, on est maintenant sous une nouvelle loi où on est libéré. On est libéré parce que à cause de cette croix où Christ est mort, aujourd'hui on a cette liberté. Ça, c'est vraiment pas ma texte, mais c'est important. Et si quelqu'un ici n'a pas expérimenté cette liberté, pensez-y, c'est bien. C'est la chose la plus merveilleuse d'expérimenter cette liberté de le poids de péché dans la vie. Ça change tout. Donc l'acte qui était rédigé contre nous, parce que la loi de Moïse, ça nous rendait coupables. Coupables de nos péchés, et ça disait qu'on était sous la peine de mort à cause de notre péché contre Dieu. L'acte est contre nous, mais à cause du sang de Christ, cet acte est annulé. Et c'était fait dans les lieux célestes. Aujourd'hui, nous sommes morts. Nous-mêmes, nous sommes morts pour le péché, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Romains 6. Romains 6, 2, et puis verset 7 aussi, Paul dit, « Certainement pas, nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ?» En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Romains 6, 2 et 7. Et puis en Galates 2, verset 20, il dit de nouveau un peu la même chose. Il dit, Galates 2, 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Et donc, moi, je dois mettre à mort des choses, ce qui est terrestre dans ma vie. Paul dit en Romains 6, il répond à une question que lui est posée. Que si tout est pardonné, tout est permis, plus ou moins. Mais il dit, nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ça ne donne pas le droit de vivre dans le péché maintenant, si on est déjà mort avec Christ pour ses péchés. Et on est libéré du péché dans notre vie. Jésus a tout fait pour moi dans les lieux célestes et mon salut est acquis. Mais Dieu nous dit par la main de Paul que notre part est de mettre à mort ces choses terrestres. Ça revient. C'est la mise à mort. C'est la bonne mise à mort. Et puis en verset 10, je saute dans le texte, je saute beaucoup de choses, mais prends ce texte et médite-le, parce que c'est riche, c'est très riche. J'avais commencé déjà, avant que Pierre m'a demandé de prêcher aujourd'hui, j'avais déjà commencé de lire ce texte et je lisais chaque jour, et chaque jour, il y avait des nouvelles choses qui sortaient de ce texte pour moi. Et quand Pierre me disait, tu peux prêcher aujourd'hui, je dis pas problème, presque tout de suite. J'ai juste demandé à Corinne qu'est-ce qu'elle pensait. Mais c'est riche et ça vaut la peine de passer le temps dessus pour bien comprendre. Mais en verset 10, ça dit, je le lis ici, « Je commence à verset 9. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés de vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Ces versets, ça m'a frappé la première fois que je lisais le verset 9. Je pensais, il écrit aux chrétiens. Il dit, ne vous mentez pas les uns aux autres. Si Paul est en train d'écrire ça, ça veut dire que c'est un problème dans la vie des chrétiens. Donc, c'était pas les gens parfaits, c'était pas l'église parfaite. Par aucune mesure, c'était une église parfaite. Il avait des choses, le mensonge entre eux, et Paul dit, il faut que ça arrête. Après, il dit, quand vous êtes dépouillé de vieil homme, dépouillé. Je regardais ce mot parce que je me demandais qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Et j'ai découvert ce que je pensais que ça voulait dire déjà. C'était comme lorsqu'un chasseur chasse et il attrape son proie, la biche dans la forêt. Après, il enlève la peau. C'est le dépouillement, n'est-ce pas? Pour tous les Français, j'ai juste là. C'est enlever et jeter. On est dépouillé de vieil homme. Ce vieil homme, en nous, c'est enlevé. C'est parti, ça ne fait plus partie de nous. Et ses manières d'agir. Le mensonge, toutes ces choses qu'il a citées. Mais on ne reste pas tout nous, n'est-ce pas? Vous avez revêtu l'homme nouveau. Revêtu. C'est juste tout simplement ce que ça veut dire. De mettre un nouvel habit, habillement. Et pour vous donner une petite idée de ça, quand j'avais 20 ans au Canada, j'étais à l'école biblique et j'ai la famille dans la Grande Prairie canadienne où il fait bien froid en hiver et on se gèle bien. Mais j'allais pour, c'était la semaine de lecture à l'école, donc j'avais le temps pour partir et je suis allé chez ma famille, mon oncle, mon cousin qui a mon âge. Et mon cousin, il travaillait pour son père qui est agriculteur, il a les grands champs de céréales. Mais il travaillait aussi parce que c'était l'hiver, ça ne travaille pas beaucoup le champ de céréales en hiver. Il travaille pour un autre arrière-oncle qui avait une ferme avec des vaches pour le lait. Et vous imaginez que lorsqu'il fait froid, qu'on ne sort pas les vaches en hiver, on les laisse dans la grange, l'enclos, bien fermé, bien au chaud. Mais les vaches, en tant que vaches, ça suit son cours tous les jours. Et après un moment, il faut bien sortir les vaches de la grange dans le champ, et c'est en printemps quand il fait moins froid, et il y a quelqu'un malheureux qui doit nettoyer la grange. Et mon cousin, en tant qu'employé de mon arrière-oncle, avait le privilège de nettoyer la grange. Et c'était pas cinq vaches, c'était une ferme laitière, donc il avait beaucoup de vaches. Et donc c'était assez grand. Il avait une machine pour faire le gros du travail, mais quand même, il devait aller à l'appel aussi. Et moi, ce jour-là, pour gagner un peu d'argent de mon arrière-oncle, j'ai aidé. Est-ce que vous comprenez l'ampleur et l'odeur de tâche? À la fin de la journée, notre seul et unique souhait, c'était de nous débarrasser des combinaisons de travail qu'on portait et de se doucher et de remettre des habits propres qui avaient une bonne odeur de fleurs de champ, de l'assouplissante de ma tante. Voilà ce qui représente l'idée d'être revêtu. Et vraiment, pour Dieu, et si on regarde en Ésaïe, je n'ai pas le verset en tête, mais même nos bonnes œuvres sont comme et pire que ces combinaisons de travail que moi et mon cousin portaient, qui étaient imprégnées, vraiment imprégnées avec l'odeur des vaches, que ça fouettait, ça faisait mal. Mais pour Dieu, c'est pire que ça. Même nos bonnes œuvres qu'on fait sont pires que ça. Autant plus les péchés dans nos vies. Qu'est-ce que c'est pour Dieu? Qu'est-ce que c'est? Un autre exemple plus biblique de ça, on a vu avec Pierre quand on a étudié les livres des rois, tout à la fin du deuxième roi, en chapitre 25, il est écrit du roi Joachim. Souvenez qu'il avait beaucoup de noms difficiles et complexes là. Joachim, qui était pris prisonnier par le roi de Babylone. Et dans la 37e année de l'exil de Joachim, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil-Merodach, le roi de Babylone, releva la tête du roi de Juda, Joachim, et le fit sortir de prison. C'était la première année de son règne. Il lui parlait avec bonté et lui donna une place supérieure à celle des autres rois retenus avec lui en Babylone. Il lui fit changer, voilà l'idée, changer ses habits de prisonnier, et Joachim mangea à sa table tout le reste de sa vie. Le roi pourvu constamment à son entretien journalier durant tout le reste de sa vie. Joachim était revêtu ses habits de prisonnier qui sentent un peu une métaphore de nous et de notre vieil homme de pêcheur. On ne pouvait pas porter des habits de prisonnier dans la présence du roi. Ça ne se fait pas de faire ça. Donc, il fallait changer les habits de Joachim. Il fallait lui donner des bons robes qui méritaient la présence du grand roi de Babylone. Donc, autant plus nous, qu'est-ce que nous emporte devant le roi? On est revêtu. Vous avez revêtu le homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance. Donc ça, c'était d'être revêtu. Et nous sommes revêtus dans les lieux célestes aujourd'hui. On est aussi la dernière chose que je vous parlais là, c'est l'idée de le renouveau. C'est un changement de vie par rapport à un autre déjà passé. On a beaucoup parlé de ça déjà ce matin. C'est la rénovation de nos vies. Le rénovateur, le vrai rénovateur, c'est Dieu. Et quand lui, il vient, il fait un travail merveilleux qui change tout. En Romains 12, 1 et 2, c'est un de mes passages préférés. Il dit, je vous encourage donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. C'est Romains 12, 1 et 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le renouvellement de moi, de mon intelligence. C'est ça, l'intelligence, c'est le côté spirituel de l'homme. C'est notre façon de penser. Tout ça, c'est l'intelligence. Et Dieu le transforme. Et là, en Romains 12, Paul parle d'être renouvelé afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Mais juste, en gros, juste d'être renouvelé, d'être changé. Et c'est cette idée de la chenille qui, à un moment donné, il arrête de manger, il fait son cocon, et dans ce cocon, il y a de la transformation qui se passe. C'est le sens vraiment en Romains 12, 2 de ce mot transformé. C'est la métamorphose. Et là-dedans, il y a un renouvellement, il y a un changement qui se passe, une rénovation qui se passe. Je ne trouve pas d'autre mot. Et là, quand le cocon s'ouvre, ce qui sort de là, ce n'est pas la chenille. C'est ce papillon, le papillon monarque, qui est grand et merveilleux et tellement joli. Ça, c'est le renouvellement, ça, c'est la transformation. Et dans quoi est-ce qu'on est transformé? On est transformé à l'image de celui qui nous a créés. Nous serons un jour comme lui. Mais déjà, ça se passe. C'est une œuvre en marche en nous. C'est quelque chose dans chacun de nous. Mais dans ce texte, Dieu nous met à le défi qu'on ne peut pas rester là où nous sommes aujourd'hui. On ne peut pas laisser les vieilles habitudes demeurer dans nos vies. Dieu dit, il faut que ça change. Il faut mettre à mort ces choses. Il ne faut plus les laisser dans nos vies. Il faut laisser Dieu agir en nous. Il faut être transformé, renouvelé par la présence de Dieu dans nos vies. Et c'est nous qui doit le faire. Mais c'est le Saint-Esprit aussi qui agit en nous. C'est Dieu qui est à l'œuvre dans nos vies. Et c'est nous qui dit oui. Seigneur, je veux changer. Je veux plus que ça reste le même. Je ne supporte plus ces habitudes, ces péchés. C'est pas juste des habitudes, c'est des péchés dans ma vie. Et je veux que ça change. Donc, je prends mon pas de volonté. Et quand moi je prends le pas, Dieu prend un pas avec moi aussi. Il marche avec moi. Il agit avec moi. Et ces choses, ça peut changer. Et ça va changer. Donc, gardez ça. Changez le cap de la vie. Naviguez autrement. Et laissez Dieu agir dans nos vies. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci que ta parole et vivant. Merci que ta parole est efficace pour nous instruire, pour nous corriger, de mettre la lumière dans nos vies, là où ça a besoin d'être allumé, pour qu'on voit dans nos vies les choses qui doivent être changées. Mais merci Seigneur pour la croix. Merci parce qu'à cause de la croix et tout ce que ça implique, on n'est pas laissé tout seul. Et tu viens et tu nous donnes le Saint-Esprit qui travaille en nous et qui nous donne la capacité de changer. Seigneur, donne-nous la volonté de changer. Et merci parce que quand on a la volonté, toi, tu es là avec la puissance de nous aider. En ton nom, Jésus. Amen.